Jean-Marie Mercadal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur des gestions chez OFI Asset Management. On va revenir avec vous sur les marchés et les perspectives sur ces marchés. Comment vous abordez, on va dire, d'abord le court terme, c'est-à-dire tout ce qui se passe au jour le jour avec à la fois des rumeurs, notamment concernant la Grèce, des choses concrètes comme la dégradation de la note par Standard & Poor's de la dette souveraine italienne. Comment on fait dans le court terme quand on est investisseur?
On essaye de bien analyser les choses et d'essayer de voir ce qui est rationnel et ce qui l'est un peu moins. Alors dans ce qui est rationnel, on a bien compris qu'aujourd'hui, analyser les classes d'actifs les unes par rapport aux autres, dans le cas d'une récession, voire d'un ralentissement économique classique, c'est assez facile. Je dirais que si c'était juste qu'un ralentissement ou une récession, eh bien aujourd'hui, on peut dire de façon assez certaine que les actions ont déjà anticipé un ralentissement et qu'elles ne sont pas chères par rapport aux obligations dans un contexte monétaire qui va rester, je dirais, assez laxiste. Plutôt accommodant, on va dire, pour les prochains mois. Ceci dit, on n'est pas dans un schéma classique, malheureusement, on est dans un schéma où les marchés, les investisseurs ont la crainte éventuelle d'un choc systémique. Et donc, on est dans le cas d'une crise de confiance. Et on sait bien que en économie comme en matière boursière, quand il n'y a pas de confiance, eh bien, c'est là que c'est le plus difficile d'y voir à court terme. Donc, on essaye de voir d'où pourrait revenir la confiance. Et c'est là que on a un certain nombre d'hypothèses qui nous font rester à court terme encore assez prudents, mais un message plus constructif pour des investisseurs qui ont un petit peu plus de temps.
Alors on pourrait dire que le scénario a complètement changé sur cette année 2011. Hein, si on relisait toutes les notes des uns et des autres sur l'année 2011, comment elle devait se passer, c'est clair qu'on en est loin. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être, on est aussi dans un excès inverse, c'est-à-dire que effectivement les investisseurs voient des défauts un peu partout, qu'effectivement le scénario noir est en train de se mettre en place, ou est-ce qu'on est obligé en tant qu'investisseur d'évoquer ce scénario?
Alors il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est vrai que en matière boursière, quand le pire paraît tellement évident et tellement clair, en général, c'est là qu'il faut se mettre à faire l'inverse et commencer à prendre des positions plus, entre guillemets, risquées vers notamment les actions. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'en début d'année, on était parti sur un schéma tout à fait classique de ralentissement économique durant l'été, suivi d'une reprise en fin d'année. Et donc, on était dans un schéma normal. Et donc, c'est plutôt cet été qu'il y a eu une rupture de ce scénario, avec justement ce choc de confiance que j'évoquais. Et il y a deux catalyseurs qui ont provoqué ce choc de confiance. Le premier, c'est le choc politique, la perte de confiance dans les politiques. On l'a vu en Europe avec la crise de la zone euro, et on l'a vu aux États-Unis. Ça a un peu surpris, hein, l'histoire de relèvement du plafond de la dette. C'est pas quelque chose d'anormal aux États-Unis. En revanche, que ce soit si violent politiquement, ça a surpris les marchés, surtout qu'on va avoir une période électorale, préélectorale, qui va durer du temps, qui va durer un an, grosso modo. Et puis deuxièmement, cette question des dettes souveraines au sein de la zone euro, on voit bien qu'on n'arrive pas à court terme à rassurer les marchés. Et les marchés ont pris peur, du coup, cet été, sur les conséquences dans les bilans des banques de ces positions sur les dettes de la zone euro. Et donc ces deux phénomènes ont créé de la panique. Et quand il y a perte de confiance dans le système bancaire, on voit bien qu'on se retrouve dans le cas précédent. Et le cas précédent, là, pour le coup, c'était 2008. Et effectivement, il n'est pas drôle, le cas de 2008, avec la faillite de Lehman Brothers. Donc on est un peu dans l'irrationalité, le choc de confiance.
On voit les investisseurs hein, qui se protègent comme ils peuvent, on va dire, dans ces périodes-là. Si on regarde les actifs qui ont été choisis, on pense bien sûr à l'or, on pense au franc suisse, on a vu les conséquences pour la Suisse, le Bund allemand par exemple, et on a vu les investisseurs régulièrement aller chercher ces actifs-là, pas forcément par conviction, mais.
Non, par dépit, je dirais, par crainte de tout le reste. Hein, mais aujourd'hui, ces actifs sont très chers. Alors l'or, c'est très difficile de donner un prix à l'or, parce que justement, c'est la fonction de l'offre et de la demande, et justement de la perte de confiance dans les monnaies. Ceci dit, l'or a une configuration de marché qui fait penser aux pires bulles boursières de l'histoire. Hein. Je dirais que le graphique d'aujourd'hui de l'or, c'est plutôt un graphique exponentiel. Donc logiquement, si on voudrait rentrer dans l'or, il faudrait peut-être plutôt attendre des phases plus propices. Les obligations allemandes, même les obligations américaines, hein, aujourd'hui, ça rapporte rien. Donc tout ce qui est sûr aujourd'hui est cher. Et tout ce qui n'est n'est pas cher n'est pas sûr. Et ce qui n'est pas cher, bah, ce sont les valeurs des entreprises, donc les actions, avec des valorisations qu'on n'a jamais vues aussi basses depuis 25-30 ans, des dividendes élevés. Et puis les obligations d'entreprise, surtout sur le high yield. Là aussi, on retrouve des rendements de l'ordre de 10% sur le high yield après la chute qu'il y a eu cet été. Donc ça, c'est pas cher, mais c'est pas sûr, évidemment.
Ah, justement, c'est peut-être la difficulté du moment, c'est de voir quand cette confiance va pouvoir revenir, quels sont peut-être les catalyseurs qui permettront cette confiance. Alors on voit souvent les investisseurs ou les commentateurs disent il faut que les politiques trouvent une solution. Les politiques, eux, aimeraient moins de pression des investisseurs, on a l'impression que c'est un dialogue de sourds.
Les politiques, quelque part, payent leur laxisme depuis quand même un certain nombre de dizaines d'années, on va dire. Effectivement, là, ça pourrait venir des politiques, sauf qu'aujourd'hui, les politiques qui sont menées sont des politiques qui ne sont pas crédibles, puisque on veut à la fois ménager la croissance, réduire les déficits, et donner confiance au marché. Ça ne va pas marcher. Il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas logique. Donc, je crois que pour redonner la confiance au marché, il faudrait ouvrir la transparence, quelque part, sur la situation des banques. Donc, les stress tests qui avaient eu lieu il y a quelques mois sur les banques européennes n'avaient pas pris en compte les positions sur les dettes souveraines, puisqu'on considérait que ce n'était pas risqué. Donc, quelque part, les banques, ce n'est pas de leur faute si elles sont aujourd'hui embarquées dans les dettes souveraines, puisque le régulateur leur a dit que ce n'était pas dangereux. Sauf qu'aujourd'hui, le marché dit ça, c'est dangereux. Donc, il faudrait, quelque part, qu'on ait plus de visibilité sur le bilan des banques, savoir si elles sont solvables, si elles ont besoin d'augmentation de capital, etc., etc. Le jour où on aura cette transparence, je pense que les marchés, logiquement, retrouveront une certaine confiance, et puis on se dira finalement, un jour, on se dira bah, finalement, oh là là, cet actif qui me paraissait très sûr, comme par exemple le franc suisse, c'est hors de prix. Donc je viens sur des actifs qui ne sont pas chers, même s'ils sont un peu moins sûrs, mais j'ai un peu plus de confiance dans le système bancaire, donc j'y crois un peu.
Vous ne mettez pas de côté le fait qu'on puisse redescendre, qu'on puisse atteindre des plus bas, ceux qu'on avait atteints en 2009, par exemple.
C'est tout à fait possible. Hein, ouais. De toute façon, maintenant, on est quoi, à 10-15% des plus bas de 2009. Rappelez-vous aussi que en fin d'année 2009, on se disait, oh là là, en mars 2009, les prix s'étaient donnés. Qu'est-ce qu'on aurait dû s'embourrer. On aurait dû en acheter beaucoup. Sauf que mars 2009, ça paraissait être la fin du monde. Comme aujourd'hui, on a l'impression que c'est la fin du monde parce que les banques vont faire faillite et que l'euro va exploser. C'est peut-être possible. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas écarter le fait que les actions soient encore malmenées et qu'on ait encore des corrections boursières assez violentes. Ceci dit, je pense que si on a un peu de temps, si on a du temps devant soi et si on a une intime conviction qu'on pense que le système ne va pas exploser, à ce moment-là, je pense qu'il faut se dire que bah, je rentre progressivement sur des belles entreprises de la côte française et européenne, des belles valeurs industrielles qui savent faire des choses dans le monde pour se positionner pour les prochaines années. Là, je crois qu'on aura des opportunités.
En conclusion, comment évolue concrètement votre allocation d'actifs
aujourd'hui, on a un discours assez simple à nos clients, hein, parce que quelque part, les choses sont simples. Je dirais que c'est un peu en quatre dimensions. Il y a la dimension valorisation, donc il y a des choses chères et sûres, et des choses pas chères, pas sûres. Ça, c'est première chose. Et deuxième chose, il y a un axe, intime conviction, temps. Si nos investisseurs ont très peur que l'euro explose, ont très peur des banques, on n'a pas d'éléments tellement plus qu'eux au stade actuel pour dire bah, on a plus raison que vous. Donc auquel cas, si vous avez cette conviction-là, bah, restez sur le Bund, même si ça rapporte rien du tout, tant pis. Là au moins, vous serez en accord avec vos convictions. Nous, on pense que l'euro ne va pas exploser et on pense que tôt ou tard, la situation des banques s'éclaircira. À ce moment-là, on dit bah, commencez à investir progressivement, mais on ne peut pas écarter fondamentalement de toute façon que les marchés vont rester volatiles, et ils vont rester volatiles, en fait c'est pratiquement sûr, au cours des 6 prochains mois, parce que de toute façon, les politiques, dans tous les pays, il y a des campagnes électorales, donc on n'aura pas de vraie politique économique crédible qui sera menée au moins avant un an, et peut-être pas après non plus, mais enfin on verra.
Merci d'avoir fait le point avec nous, Jean-Marie Mercadal. On rappelle que vous êtes donc le directeur des gestions d'OFI Asset Management.
Merci.